nerveux, bonne année, une année de grâce du Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous venons à toi ce matin. Nous t'apportons tout ce que nous avons, nous t'apportons nos vies, Seigneur. Et nous nous plaçons là à tes pieds comme les mages. Nous t'apportons de l'or, nous t'apportons de l'encens et nous t'apportons de la myrrhe. Oui, Seigneur Jésus, nous reconnaissons que tout appartient, toutes les richesses de la terre sont à toi. Parce que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui as tout créé et tu es venu dans ce monde mourir pour le salut de nos âmes. Tu as donné ce que tu avais de précieux, ta vie, pour nous sauver. Oui, Seigneur, nous venons à toi ce matin. Nous venons tout déposer à tes pieds. Et nous ouvrons nos mains, Seigneur, pour tout recevoir de toi. Parce que toi, tu désires nous combler. Tu désires nous bénir. Tout ce que tu as fait à la croix, c'est pour nous que tu l'as réalisé. Tu n'es pas mort pour toi, mais tu es mort pour nous. C'est parce que tu désires nous combler de ta présence que tu as donné ta vie pour nous. Merci. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous éclaire à l'écoute de ta parole. Et accorde-nous de saisir cette parole comme un trésor. La garder au fond de nous. Pour la gloire de ton nom, afin qu'elle porte du fruit et du fruit en abondance. Que ton nom soit glorifié. Amen. Bienvenue dans le Seigneur ce matin pour cette prédication. Je vous propose un verset. Un verset tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Non, pardon, au chapitre 16. Et c'est le verset 26. Matthieu 16. Verset 26. Matthieu 16, verset 26. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est Christ lui-même qui parle dans ce verset. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Alors, à travers ce verset, frères et sœurs, qu'est-ce que je veux dire? À travers ce verset, je voudrais ce matin vous amener à réaliser combien nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Combien nous avons, combien j'ai de la valeur, combien tu as de la valeur, combien nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Ne voyez pas les choses seulement de façon globale. Mais voyez les choses de façon individuelle, de façon personnelle. Nous avons de la valeur, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je disais que c'est Christ lui-même qui parle à travers ce verset. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? L'expression « tout le monde » ne concerne pas que les hommes. Il s'agit non seulement des hommes, mais aussi de tout ce qu'il y a dans le monde. De sorte que la version du Semeur dit ceci, « Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd son âme ?» En fait, il s'agit de posséder toutes les richesses. On parle de richesses à travers l'or. Il s'agit de posséder toutes les richesses et par-dessus tout, tous les hommes aussi du monde entier. Voyez, vous possédez toutes les richesses et vous possédez par-dessus tout tous les hommes du monde entier. À quoi cela servirait-il à un homme s'il venait à perdre son âme? Ce verset pose la question de la valeur. La question de la valeur de l'être humain, évidemment, en rapport avec la venue de Jésus au monde. Quelle est la valeur d'une vie humaine? Quelle est la valeur d'une vie humaine? Alors, dans notre société, la valeur de l'être humain, la valeur d'une vie humaine n'est pas la même pour tout le monde dans notre société. Elle varie en fait selon les individus, de sorte qu'il y a des individus qui ont plus de valeur que d'autres, il y en a qui ont moins de valeur, il y a des vies qui comptent plus que d'autres. Mais ça, c'est le regard de notre société, de notre humanité en général. Mais quelle est notre valeur? Quelle est ma valeur aux yeux de Dieu? Quelle est notre valeur aux yeux de Dieu? Alors, assurément, c'est sans nul doute auprès de Dieu que nous trouvons notre vraie valeur, notre véritable valeur. La Bible nous enseigne que c'est Dieu qui a établi le barème des valeurs dans l'univers. Donc, ce ne sont pas les hommes. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 16, au verset 15, Luc 16, verset 15, il est dit « Car ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant Dieu. » Ce qui est élevé parmi les hommes est en abomination devant Dieu. C'est-à-dire que ce à quoi les hommes accordent le plus de valeur est en fait une abomination devant l'Éternel. Et que servirait-il à un homme de gagner toutes les richesses et tous les hommes du monde entier s'il perdait son âme? Bien-aimé dans le Seigneur, essayez un tant soit peu de vous imaginer toutes les richesses qui existent sur la terre. Je pense qu'il y a tellement de trésors dans ce monde qu'il est impossible de les imaginer tous. Des études montrent que le produit brut mondial, c'est-à-dire la richesse du monde, s'élève à des milliards et des milliards de dollars, des milliards et des milliards d'euros. Cela fait beaucoup d'argent, mais sans compter les biens immobiliers. Pensez un peu à des villas, donc le prix dépasse la dizaine de millions d'euros. Pensez aux diamants et aux métaux précieux. On a parlé de l'or, de l'argent. Pensez aux voitures de luxe, aux avions, ainsi qu'à tous les produits électroniques ultra-modernes que nous trouvons aujourd'hui. Nous n'avons cité que quelques-unes des choses considérées comme ayant de la valeur. Et pourtant, Jésus nous dit dans ce verset que si un homme échangeait son âme, c'est-à-dire sa vie, contre toute cette richesse, il ferait en fait une mauvaise affaire. Une mauvaise affaire. La compréhension de ce verset, frères et sœurs, nous amène donc à dire que notre valeur, je le disais tout à l'heure, ma valeur, notre valeur aux yeux de Dieu dépasse toute la valeur, mais contenue dans ce monde. Toute la valeur. Je ne sais pas si vous représentez cela. Alors, quelle est donc notre valeur aux yeux de Dieu? Quelle est notre valeur? Souvenons-nous de ce verset connu par presque tout le monde, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, Dieu a donné son Fils en échange de nos vies, pour nous racheter. Il a donné son Fils en rançon pour nous. Donc, rien ni personne d'autre n'aurait pu nous racheter. Rien ni personne d'autre n'aurait pu nous racheter. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous enseigne qu'une vie, qu'une âme coûte cher. Une âme coûte cher, très très cher. Au psaume 49, l'auteur a d'abord commencé par attirer l'attention de tous les peuples, de tous les habitants de la terre, en tout cas tous les peuples. Ensuite, il a dit ceci de la part de l'Éternel au verset 8, psaume 49, verset 8 et verset 9. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Le rachat d'une vie bien-aimée est bien trop coûteux. Mais Dieu estime que, Dieu estime que notre vie a de la valeur. Notre vie, notre âme a une telle valeur qu'il nous a rachetés par Jésus-Christ lui-même. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, au verset 20, dit « Vous avez été rachetés à un grand prix, un grand prix. » Bien-aimés, écoutons bien ce raisonnement. D'après les Écritures, rien, mais alors rien n'a plus de valeur pour Dieu le Père que son Fils Jésus-Christ. En tout cas, rien pour Dieu le Père n'a plus de valeur que son Fils Jésus-Christ. Nous sommes tous d'accord. Pourtant, à travers le prix payé pour nous racheter, Dieu déclare que notre valeur est finalement comparable, mais à son plus grand trésor, qui est Jésus-Christ. Notre valeur, c'est une chose étonnante. Si nous avions eu aux yeux de Dieu une valeur inférieure, disons une valeur inférieure à Jésus, en tout cas, même ne serait-ce que très légèrement, je dis bien, si nous avions eu aux yeux de Dieu une valeur inférieure à Jésus, même ne serait-ce que très légèrement, je vous assure que Dieu n'aurait jamais donné son Fils. Dieu n'aurait jamais donné son Fils, car il ne fait jamais, notamment Dieu ne fait jamais de mauvaises affaires, Dieu ne fait jamais de mauvaises transactions. Voyez-vous, bien-aimés, quelle importance aux yeux de Dieu vous avez, aux yeux de Dieu le Père. Jésus le confirme. Jésus le confirme lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 22 et 23, il dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Que fait Jésus à travers ces deux versets? Il déclare que Dieu le Père nous aime autant qu'il aime Jésus, son trésor. Comprenez-vous cela? Voyez-vous maintenant votre véritable valeur? À partir de là, frères et sœurs, nous pouvons maintenant mieux comprendre la vraie signification de Noël. Pourquoi Noël? À partir de là, nous comprenons comme un jour nouveau, mais pourquoi Dieu nous recherche-t-il si intensément? Pourquoi? Nous avons de la valeur. Alors, le raisonnement humain, justement, peut nous amener à penser que Dieu a fait cela pour toute l'humanité, dans sa globalité. Et au final, se dire, mais qu'est-ce qu'un individu? Qu'est-ce qu'un individu? Ou qui suis-je moi? Qui suis-je moi au milieu de tous les hommes? Mais la réponse est très claire, la réponse est très simple. Si vous avez été seul à devoir être racheté, Dieu aurait aussi payé le prix pour vous personnellement, si vous étiez le seul. Cela se voit très clairement dans le ministère de Jésus. Regardez. Jésus a passé toute une journée entière à enseigner des multitudes au sujet du royaume de Dieu. Il est épuisé, il est fatigué, et pourtant, il y a une chose à ses yeux qui ne peut pas attendre. Que fait-il? Conduit par le Saint-Esprit, il dit à ses disciples de monter dans une barque et de traverser donc la mer de Galilée. Alors, au milieu du voyage, une tempête se déchaîne et met leur vie en péril, met leur vie en danger. Alors, Jésus est tellement fatigué, lui, de son côté, il dort. Saisi de peur, donc, les disciples le réveillent pour l'avertir du danger. Jésus répond en donnant l'ordre, en intimant l'ordre au vent et à la mer de se calmer. Il passe donc une bonne partie de la nuit dans cette barque. Lorsque finalement ils atteignent l'autre rive, en tout cas les disciples de leur côté espèrent pouvoir prendre un peu de repos. Mais à peine débarqués, je suis dans l'évangile de Jean chapitre 5, à peine débarqués, un homme vient à la rencontre de Jésus. Alors qu'il était possédé par des démons, il dit lui-même toute une légion de démons. Cet homme vivait au milieu des tombeaux. Personne ne pouvait plus le tenir attaché, même avec une chaîne. Souvent, en effet, on lui avait mis des fers aux pieds et des chaînes aux mains, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers. Personne n'était assez fort pour le maîtriser. La nuit comme le jour, il errait parmi les tombeaux et sur les collines, en poussant des cris et en se blessant lui-même avec des pierres. Bien-aimé, de nos jours, cet homme aurait été enfermé dans ce qu'on appelle des centres psychiatriques et probablement dans la cellule la plus isolée possible. Voyez, on lui aurait donné toutes sortes de drogue pour le calmer et surtout on l'aurait laissé à son triste sort. Il aurait finalement été considéré par la plupart d'entre nous comme, j'allais dire, un rebut, un déchet de la société. Encore en vie, on peut le dire, grâce à l'absence d'une loi autorisant son exécution à mort. Il aurait été considéré comme inutile, sans valeur et même coûteux peut-être pour la collectivité. Voyez, personne ou presque n'aurait cherché à se rapprocher de lui. Pourtant, cet homme avait une grande valeur pour Dieu le Père, une grande valeur pour Dieu le Fils et une grande valeur pour Dieu le Saint-Esprit. Jésus est venu vers lui et a manifesté sa puissance envers lui. Sa délivrance a été si grande, si extraordinaire qu'avant la fin de la journée, nous dit le texte, il était assis auprès de Jésus, habillé et dans son bon sens. Ensuite, il est dit au verset 21 que Jésus regagna finalement l'autre rive. Vous voyez, frères et sœurs, c'est vraiment merveilleux de voir Jésus d'un côté épuisé, fatigué, mais déterminé à faire le voyage par bateau, traverser la mer, combattre la tempête pour délivrer un seul homme considéré comme inutile et sans valeur par la société, puis simplement reprendre ensuite la mer pour s'en retourner. Il a fait tout cela pour un seul individu. Bien-aimé, lorsque vous méditez sur un tel récit, en tout cas, le Saint-Esprit va vous faire comprendre que si j'avais été seul au monde à avoir besoin du salut, Dieu m'aurait recherché quand même et aurait payé le prix pour me racheter afin que je puisse vivre une relation intime avec lui. Bien-aimé, ce n'est donc pas étonnant que les anges aient chanté le jour de la naissance de Jésus, pour célébrer la paix sur la terre parmi les hommes que Dieu agréait. Donc, à la naissance de Jésus, la passion de Dieu à notre égard était alors pleinement dévoilée aux yeux du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne à laquelle Dieu nous a appelés, vous voyez, n'est pas une blague. N'est pas une blague, c'est vraiment du sérieux. En tout cas, du côté de Dieu. Mais c'est vraiment du sérieux. Alors, je vais vous apporter une autre vérité qui va peut-être vous choquer, mais c'est vraiment la vérité parce que c'est dans la parole de Dieu. Vous savez, il y a un principe biblique qui dit que Dieu ne demande jamais à ses enfants de faire une chose qu'il n'a pas lui-même fait auparavant. Dieu ne demande jamais à ses enfants de faire une chose qu'il n'a pas fait lui-même auparavant. Autrement dit, Dieu n'exige rien de nous sans qu'il ne soit au préalable passé par ce chemin lui-même. Il n'exige rien de nous. Quand Dieu nous dit qu'il nous a, alors quand Dieu nous dit de nous aimer les uns les autres, voyez, mais c'est parce qu'il nous a aimés au préalable, le premier. Quand il nous demande d'être humble, mais c'est parce qu'il nous a montré le chemin de l'humilité en premier. Quand il nous exhorte à nous offrir à Dieu comme des sacrifices vivants, saints et agréables, mais c'est parce qu'il s'est offert lui en premier en sacrifice. Voyez ? Donc le principe biblique à retenir, Dieu ne demande jamais à ses enfants de faire une chose qu'il n'a pas lui-même fait auparavant. Alors, savez-vous que Dieu nous estime plus importants que lui-même? C'est pas que nous sommes plus importants, mais Dieu nous estime plus importants que lui-même. C'est une vérité qui peut paraître comme un blasphème, mais que nous dit Philippiens chapitre 2, verset 3? Ne faites rien par esprit de parti, ni par vaine gloire, hein? Mais l'humilité vous fasse considérer les autres comme étant au-dessus de vous-même. Dieu nous a estimés supérieurs à lui-même, au-dessus de lui-même. C'est parce qu'il m'a considéré supérieur à lui qu'il me demande à moi de considérer aussi les autres comme étant supérieurs à moi-même. Donc le Seigneur est un exemple pour nous. Il n'exige rien de nous qu'il ne soit au préalable passé par ce chemin. C'est lui qui a été cloué à la croix, pas moi. Et pourtant, c'est moi qui aurais dû être sur cette croix. Il a porté mes péchés, mon jugement, ma maladie, mes infirmités, mes souffrances, ma pauvreté. Et pourquoi a-t-il fait cela? Mais il l'a fait, mais parce que je compte pour lui, plus que lui-même. Mais c'est ça justement ce qu'on appelle l'esprit de sacrifice. Il nous considère comme plus important que lui-même. C'est une vérité, bien aimée, à faire couler les larmes. Mais c'est une vérité qui nous exhorte à toute une vie d'adoration, que Dieu me considère comme étant supérieur à lui. Jésus est, nous dit la Bible, le premier-né d'entre plusieurs frères. Romains chapitre 8, verset 29. En venant au monde comme un bébé et en donnant sa vie à la croix, il a fait passer ses frères et sœurs que nous sommes avant lui. Il nous a considérés comme plus importants que lui-même. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu, à ses yeux en tant qu'individu. En fait, il nous appelle les membres de sa famille. Il nous appelle ses trésors. Il nous dit combien nous avons de la valeur pour lui. Il nous dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Bien-aimés, essayez de saisir cela. Il se réjouit à notre sujet. Alors, cela nous permet de mieux comprendre Jean 17 que j'ai évoqué tout à l'heure. Dans cette prière qu'on appelle la prière sacerdotale, Jésus insiste notamment sur l'unité. Jésus insiste sur l'unité. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Vous pesez les mots, parfaitement un. Alors, nous comprenons par là, frères et sœurs, que l'unité dont Jésus parle, hein, mais l'unité est comme, j'allais dire, de l'huile. L'unité, c'est comme un lubrifiant, voilà, un lubrifiant indispensable pour faire tourner la machine qu'on appelle l'Église. L'unité, lubrifiant indispensable pour faire tourner la machine qu'on appelle l'Église. Il s'agit évidemment de l'unité d'un groupe d'hommes et de femmes rachetés par le sang de Jésus. Et le secret de cette unité, c'est Christ lui-même qui l'a donné. Voyez, il a dit quelque chose qui ressemble à ceci. Il dit, quand tu es tenté de critiquer, quand tu es tenté d'avoir du ressentiment, tourne ton regard sur toi-même et laisse ton frère tranquille. Reconnaissez en vous-même la poutre du ressentiment et de la critique. Ensuite, permettez au Saint-Esprit de s'en occuper et vous serez capable de vous occuper de la paille de votre frère. Car, ou bien vous cesserez de la remarquer et elle sera engloutie dans votre vision renouvelée de tout ce qu'il a de Christ en lui, ou bien vous reconnaîtrez que votre Seigneur, qui selon sa méthode pardonne vos péchés, est aussi son Seigneur et agira de même à son égard sans votre intervention. Et si, dans un cas exceptionnel, vous êtes amené à parler, ben, vous prononcerez plutôt une parole de confession pour votre ressentiment au lieu d'un reproche pour le manquement de votre frère. En d'autres termes, voici le grand secret pour tisser et maintenir l'unité dans l'Église. Au moment où je suis enclin à critiquer, à avoir du ressentiment contre un frère ou une sœur, mais je dois reconnaître que le péché qui me concerne personnellement, c'est justement mon esprit de critique et non la conduite de mon frère. Et je dois m'appliquer à laisser Dieu s'occuper de cela jusqu'à ce qu'un esprit d'amour et d'estime ait pris la place et que j'honore mon frère au lieu de le juger, me réjouissant de tout ce qui peut être vu en lui de l'image du Christ. C'est ce qu'on appelle la victoire du calvaire. C'est ce qu'on appelle le triomphe du bien sur le mal. Sous un autre angle, nous pouvons dire que le secret de l'unité, ce qui résout, en bref, tous les problèmes, tous nos problèmes, c'est la foi. C'est la foi. Pourquoi la foi? D'abord, mais parce que, vous voyez, mais Dieu a cru en nous. Dieu a cru en nous. Toute la démarche de la rédemption sous-entend le fait que Dieu ait cru en l'homme. Il a eu de la foi en nous. Mais alors, comment ne pourrions-nous pas, à notre tour, avoir de la foi en nos frères et sœurs? Comment? Se pose alors la question de mais comment pouvons-nous faire confiance aux hommes faillibles? Ou eux, comment peuvent-ils aussi nous faire confiance à nous? Nous pouvons les aimer, mais comment leur faire confiance? Alors, voici la réponse. Nous devons agir envers nos frères et sœurs comme nous agissons envers nous-mêmes. Alors, ce n'est pas à nous-mêmes que nous faisons confiance, mais à Christ qui habite en nous, selon Galates chapitre 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. En ce qui nous concerne nous-mêmes, bien que reconnaissant en tout cas nos nombreuses fautes, nous sommes promptes à nous appuyer sur la patience de Dieu envers nous et à nous réconforter en pensant qu'il juge plutôt sur l'honnêteté de nos motifs que la pauvreté de nos résultats. Eh bien, allons plus loin et appliquons aux autres ce que nous nous sommes appliqués à nous-mêmes, reconnaissant Christ en eux, comptant sur Christ en eux. Et si nous discernons en eux une autre nature, un autre esprit que celui de Jésus-Christ, montrons-leur la même tolérance et la même sympathie qu'à nous-mêmes, croyant qu'ils sont aussi morts au péché, comme nous, d'après Romains chapitre 6, verset 11, considérons-les mais autant que nous désirons qu'ils le fassent pour nous. voyez, en agissant ainsi, nous faisons plus que maintenir l'unité. Par notre foi, nous édifions ainsi nos frères et sœurs. Donc, bien-aimés, maintenir, pour maintenir l'unité, chacun doit regarder à lui-même. Pour maintenir l'unité, chacun doit chercher la solution en lui-même et non dans nos frères et dans les circonstances. Jésus-Christ a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cela signifie que lorsque nous faisons du tort à un frère, nous faisons tort à nous-mêmes. Et inversement, lorsque nous faisons du bien à un frère, nous nous faisons du bien aussi à nous-mêmes. Philippiens chapitre 2, verset 3, j'ai cité, est puissant, frères et sœurs, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Au-dessus de vous-même. Bien-aimé, Dieu, dans son humilité, nous a estimés supérieurs à lui-même, au-dessus de lui-même. C'est parce qu'il m'a considéré supérieur à lui qu'il me demande aussi et de considérer les autres comme étant supérieurs à moi-même. Le Seigneur est un exemple pour nous. Il n'exige rien de nous sans qu'il ne soit au préalable passé par ce chemin. Le texte dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, merci de ce que